Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Métropolez-vous pour ce nouveau numéro du magazine dédié à l'actualité de Toulouse Métropole. Tous autant que nous sommes, Toulousains ou habitants des 36 autres communes métropolitaines, nous sommes amenés à nous déplacer dans les rues de Toulouse, que ce soit en voiture, à motocyclette, à vélo ou à pied, sans parler d'autres mobilités plus ou moins douces comme l'on dit aujourd'hui. Et nous avons tous constaté que circuler dans la ville rose, en raison justement de la multiplication des moyens de déplacement depuis quelques années, devenait de plus en plus compliqué, pour ne pas dire périlleux. Le respect du code de la route, le bon sens et la simple civilité, si tant est que cette dernière existe encore de nos jours, ne suffisent plus à assurer la fluidité de la circulation et la sécurité des citoyens dans nos rues. Pour tenir compte de cette réalité et répondre aux difficultés qu'elle engendre, la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole ont mené une réflexion afin de définir un code de la rue assorti d'un livret pédagogique qui en détaille les objectifs et les règles. Nous allons vous les présenter au cours de ce numéro. Et l'élu toulousain et métropolitain le mieux placé pour nous présenter le code de la rue, c'est Maxime Boyer, adjoint au maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole, chargé des déplacements et des nouvelles mobilités. Il est l'invité de cette émission. Bonjour monsieur le vice-président et merci d'avoir accepté de venir nous parler de ce document très important dont chaque citoyen va devoir prendre connaissance.
Bonjour à vous toutes et à vous tous.
J'ai fait un petit état des lieux en introduction, mais pour bien préciser les choses d'emblée, quel tableau feriez-vous personnellement aujourd'hui de la situation concernant les relations entre les différents usagers de la rue toulousaine? Est-ce que ces relations sont aussi tendues que je l'ai laissé entendre? Et est-ce que circuler dans Toulouse est vraiment de plus en plus compliqué ou éventuellement dangereux?
Il y a un constat, c'est que le nombre de déplacements n'a cessé de croître au cours des 10 dernières années. On est sur la grande métropole, au-delà même du périmètre de Toulouse Métropole, sur le grand périmètre de Tissot, 114 communes, à peu près 4,6 millions de déplacements quotidiens. 55% de ces déplacements se font en voiture. Et parallèlement, on a pu constater, au-delà de cette croissance des mobilités, une croissance de nouveaux modes de mobilité, en particulier le vélo ou encore la marche. On est entre 2016 et 2021 à plus de 77% d'usagers du vélo sur le périmètre de Toulouse Métropole.
Alors qu'est-ce qui existait jusqu'alors, avant ce code de la rue? Il y a le code de la route, bien sûr, et puis, bon, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a la civilité élémentaire entre usagers. Est-ce qu'il y avait d'autres règles ou recommandations existantes, mais que tout le monde ne connaissait sans doute pas?
Le principe du code de la rue, c'est de rappeler un certain nombre de règles, d'une part existantes, également promouvoir des recommandations de sécurité routière. Un certain nombre d'associations de sécurité routière font la promotion d'un certain nombre de recommandations. Également, de revoir peut-être certaines règles qui existaient depuis un certain temps et qu'il fallait peut-être un peu dépoussiérer. Et on a constaté au cours des différentes réunions à la mairie de Toulouse, qu'on peut faire dans les quartiers, en particulier les maires de quartier, que souvent, la règle n'était pas respectée parce qu'elle n'était pas connue ou parce qu'elle n'était pas comprise. Et parfois, dans des réunions publiques, je me suis retrouvé avec des acteurs pourtant sensibilisés aux questions de mobilité et où il y avait des points de divergence sur est-ce que oui ou non il est important ou il est nécessaire, obligatoire de disposer d'une lumière quand on fait du vélo la nuit, ou est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est facultatif. Bon bref, le débat était ouvert et donc on s'est dit qu'il était utile en effet de communiquer les règles existantes et de promouvoir les recommandations de sécurité routière.
Et donc de faire tout ça sous forme d'un code de la rue avec un livret donc pédagogique. Je pense qu'il y avait une demande forte de la part de certains citoyens pour aller vers ce code de la rue, mais aussi, vous l'avez évoqué, d'associations qui promeuvent certains modes de déplacement, le vélo par exemple.
Absolument. Alors d'une part, il faut savoir que le code de la rue, ça reprend certainement les règles du code de la route, mais aussi des arrêtés municipaux. Et peu sont les Toulousaines et les Toulousains qui lisent des arrêtés municipaux, il faut le dire. Moi, le premier. Sauf quand je dois les signer, évidemment. Et puis après, il y a la complexité des nouvelles règles qui apparaissent à travers souvent des règlements ministériels. Et donc, il y a la nécessité de pouvoir actualiser régulièrement l'information et les différentes règles et les différents arrêtés. Et ce qu'on a constaté, c'est que à travers ces discussions, les règles évoluant, il y avait une nécessité d'adapter, de communiquer, d'où la nécessité de se livrer. C'était une promesse de campagne de Jean-Luc Moudenc au cours de sa dernière campagne électorale. Et en fait, on s'est inspiré d'une initiative qui a été prise par la ville de Bruxelles en 2005, parce que c'est à Bruxelles que le code de la rue a été créé. Et petit à petit, à partir de l'année 2006, précisément, la France et le gouvernement français ont autorisé ou ont accompagné les collectivités qu'ils souhaitaient à développer le code de la rue. Et on est une des rares grandes métropoles françaises à s'être engagée et à aboutir à ce code de la rue qui se concrétise par, d'une part, un livret, mais se concrétise aussi par un certain nombre d'autres éléments, en particulier la ville à 30 km/h, en particulier d'autres éléments de communication à travers des petites vidéos qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Bon, bref, une multiplicité d'éléments de communication et de pédagogie.
Alors vous évoquiez les autres grandes métropoles françaises qui ont déjà un code de la rue, il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y a Lille et puis il y a Paris depuis peu,
Paris, depuis peu. Lille, depuis quelques années maintenant, mais en effet, c'est une nouvelle initiative, une nouvelle démarche. De nombreuses métropoles, je pense, commencent à s'y intéresser. Puis nous, on l'a fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que des villes de la métropole toulousaine souhaiteraient s'inspirer du travail de la ville de Toulouse, puisque c'est une compétence municipale.
Et bien, ça va faire tache d'huile, comme on dit. Merci d'avoir brossé ce tableau de la situation actuelle concernant les déplacements et la circulation dans Toulouse. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi certaines nouvelles règles ont été retenues dans le code de la rue. Nous allons les détailler avec vous dans quelques minutes. Pour l'instant, place à l'actualité métropolitaine et au flash d'informations hebdomadaires de Corinne Saint-Félix. Métropolez-vous, l'actu.
Et commençons ce flash info, Eric, avec une bonne nouvelle. C'est le chantier des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse qui est enfin sur les rails. Lancé le mardi 7 mai, le chantier des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse marque la première étape vers la future ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux-Dax. Cette opération, chiffrée à 900 millions d'euros, prévoit d'aménager sur 19 km au nord de Toulouse la ligne ferroviaire existante. Elle va passer à 4 voies, 2 rapides à 160 km/h et 2 lentes à 130 km/h entre le nord de Saint-Jory, lieu de contact avec la future ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse, et la gare de Toulouse-Matabio. Des travaux de réaménagement et de mise en accessibilité auront lieu dans les gares et haltes de Castelnau-d'Estrétefonds, Saint-Jory, Fenouillé, Saint-Alban, La Courte-en-Sour, la Lande-Église et route de l'Onaguet. À terme, le trajet Toulouse-Bordeaux prendra 1h05 et un Toulouse-Paris 3h10. La flamme olympique est à Toulouse en ce vendredi 17 mai. Elle va illuminer la ville rose en fin d'après-midi. Après avoir traversé plusieurs villes de Haute-Garonne, le parcours de 9 km débutera place intérieure Saint-Cyprien à 17h30. Puis la flamme sera portée du pont Saint-Pierre jusqu'à la place du Capitole, en passant par les quais de la Garonne et le port de la Dorade. Elle prendra ensuite le chemin de la basilique Saint-Cernin, passera devant le palais des sports quartier Campense-Caffarelli, elle longera le canal du Midi, l'hôtel du département et l'espace Job. Elle finira son parcours à 19h30 dans l'antre du stade toulousain, le stade Ernest Vallon, avec l'allumage du chaudron de la flamme olympique par le rugbyman Antoine Dupont. Des perturbations de circulation et de stationnement sont bien sûr à prévoir dans les secteurs traversés. Et enfin, ce week-end, profitez de la nuit européenne des musées sur les sites culturels de Toulouse Métropole. C'est un rendez-vous annuel devenu incontournable. Vous pourrez, lors de cette soirée, visiter gratuitement et dans une ambiance festive de nombreux musées. Une fois de plus, le Muséum, le Quai des Savoirs et l'Envol des Pionniers seront ouverts pour offrir aux visiteurs l'opportunité de découvrir les lieux. Au Muséum, un jeu concours est également organisé pour remporter une nuit au Muséum en septembre. Le Quai des Savoirs proposera une immersion culturelle alliant intelligence artificielle, jeux vidéo, musique et performance. À l'Envol des Pionniers, c'est le désert qui vous attend, autant des pilotes Saint-Exupéry, Guillaumet ou Mermoz. D'autres événements sont prévus avec une nuit médiévale au musée Saint-Raymond et au couvent des Jacobins, de l'hypnose au musée des arts précieux Paul Dupuy. Le castelet de l'ex-prison Saint-Michel restera ouvert jusqu'à minuit pour une visite mêlant art et histoire. Le monument à la gloire de la Résistance pourra aussi être visité avec un parcours en souterrain représentant les actions de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Bref, un beau programme.
Merci à Corinne Saint-Félix pour ce petit tour d'horizon de l'actualité métropolitaine. Alors Maxime Boyer, je vais vous demander de réagir à au moins deux informations. La première, notamment, étape importante, hein, que l'ouverture de ce chantier des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse.
C'est un chantier important et stratégique. Important parce qu'il permettra en effet l'arrivée de la LGV. C'est fondamental pour nos déplacements, en particulier des déplacements décarbonés ou en tout cas plus respectueux de l'environnement. Et le train est pour cela un des moyens de transport pour décarboner nos mobilités. Et puis stratégique parce que dans le cadre par exemple de l'étoile ferroviaire, la nécessité de ces aménagements est certes importante pour la LGV, mais aussi peut-être demain en s'engageant sur l'étoile ferroviaire. Et je tiens à préciser un point, c'est que ce chantier est certes bienvenu pour ces aménagements, mais nous, à la métropole, nous allons décider d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros en même temps que ce chantier des FNT pour faire en sorte que, vous savez, le long de la route de Paris, quand vous longez les bords du canal latéral à la Garonne, vous avez un certain nombre de petits ponts, le pont de Ruppé, des ponts assez étroits où même on ne peut pas véritablement se croiser à deux voitures. Mais là, on va profiter de cette occasion pour faire en sorte que, avec ces dizaines de millions d'euros qu'on va investir sur ces ponts, on puisse les élargir, permettre aux vélos de passer également aux piétons et donc faire des rénovations annexes qui sont indispensables également pour les mobilités douces.
Et puis, ce grand événement, c'est une première à Toulouse, on ne sait pas si on le reverra un jour, la flamme olympique donc, qui va se promener à bout de bras dans nos rues. Bon, il faut noter qu'à partir de 17h30, notamment pas très loin d'ici, donc place Saint-Cyprien, il vaut mieux ne pas se déplacer en voiture ou ne pas circuler en voiture dans ce coin-là.
Oui, en effet, alors c'est un moment fantastique pour notre ville, c'est un moment familial, sympathique, amical, et puis il faut dire, ça s'est bien passé à Marseille. On espère que ça se passe aussi bien à Toulouse et on pense que ça sera bien. En Occitan, on parle de la convivencia, de l'art du vivre ensemble. Je crois qu'en effet, ce moment sportif sera un moment de rassemblement et positif. Alors évidemment, il y a quelques recommandations que nous émettons. Nous, à la ville de Toulouse, c'est qu'au vu du flux piétons auxquels on s'attend et puis des règles vigipirates que la préfecture exige et que l'État impose. Il est important peut-être de se déplacer autant que possible à pied parce qu'on ne pourra pas stationner, s'arrêter sur ce périmètre-là. Donc profiter de venir à pied et en métro autant que possible.
Et voilà, et ça va mieux en le disant et en le rappelant. Merci d'avoir bien voulu commenter l'actualité métropolitaine. Merci de toutes ces précisions. Nous revenons maintenant au sujet principal de cette émission, le Code de la rue à Toulouse.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec Maxime Boyer, adjoint maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole en charge des déplacements et des nouvelles mobilités. L'idée de créer un code de la rue à Toulouse a été lancée il y a un petit moment. C'était quand précisément et quels objectifs, quelle volonté avez-vous dès le départ ?
L'idée initiale, c'est la campagne électorale de 2020 où Jean-Luc Moudenc souhaite inscrire le code de la rue parmi les éléments à développer pour son futur mandat. Je vous l'ai dit, on s'inspire d'autres communes, en particulier de Bruxelles. L'idée, c'est de rappeler un certain nombre de règles. Parce qu'on considère qu'en rappelant ces règles, si elles ne sont pas respectées, on pourra plus facilement et plus légitimement les verbaliser. L'objectif, c'est de réguler, d'avoir une meilleure cohabitation de l'espace public entre les différents modes de circulation. Et puis, au cours des dernières années, on a pu constater de nouveaux modes de déplacement se développer. On appelle ça les engins de déplacement personnalisés, motorisés. Les trottinettes électriques.
Gyropodes.
Les gyropodes, par exemple. Et donc, à chacun ses particularités, ses risques. Il faut savoir que sur ce type de mode de déplacement, le risque de chute est parfois plus élevé. Donc il est important de rappeler comment ça fonctionne, de rappeler les règles, et c'est un peu la démarche qui est la nôtre.
De manière à partager dans la meilleure intelligence possible et dans le respect des règles, bien sûr, un espace public qui lui-même est en pleine évolution, parce que la rue évolue, l'espace évolue. Et comment vous avez procédé pour le définir, ce code de la rue ? Est-ce qu'il y a eu une consultation citoyenne, par exemple ?
Alors ça a été un long projet qui a nécessité une longue concertation. On a réalisé un certain nombre de réunions au cours de l'année passée dans tous les quartiers de Toulouse. On n'a pas souhaité que le code de la rue soit un code pour l'hypercentre de Toulouse, même si en effet on peut constater un certain nombre de conflits d'usage entre les différents modes de déplacement. On a souhaité que ce soit inclusif à l'échelle du territoire. On a réalisé un certain nombre d'ateliers, de concertations. Les maires de quartier ont réalisé des réunions de concertation à l'échelle de leur quartier. On a favorisé une concertation numérique sur le site jeparticipe.toulouse.com. On a rencontré les différents acteurs associatifs, de pieds de roue, 60 millions de piétons, les motards en colère, la fédération des automobilistes. On a essayé d'être inclusif. On a également concerté et discuté avec des acteurs associatifs du secteur de l'handicap. Et donc, l'idée pour nous était, autant que possible, d'intégrer les différentes remarques. On a eu à peu près un peu plus de 1100 contributions écrites, des questions, des recommandations, des échanges. Et c'est ce qui nous a permis de prioriser les différents éléments qui apparaissent dans le code de la rue. Parce que le code de la rue, on ne pouvait pas tout y mettre. L'objectif, c'était surtout de mettre en avant les éléments qui étaient remontés de l'expertise d'usage de nos concitoyennes et de nos concitoyens et des différents acteurs associatifs. C'est ce que nous avons fait. On a essayé d'être condensé, de prioriser et d'être efficace dans le message qu'il fallait passer.
Est-ce qu'il y a eu parmi les constats et les propositions qui ont été mis en évidence par ces plus de 1000 contributions et toutes les consultations que vous avez pu faire, des problèmes auxquels vous n'aviez pas songé ?
En tout cas, il y a eu des propositions auxquelles on n'a pas songé. Une des propositions que notamment l'association 60 millions de piétons a faite, c'est que sur certains axes, dans certains quartiers, en particulier le centre-ville surtout, que le vélo et la trottinette, en particulier électrique, soient interdites. Rue Alsace, par exemple, ça a été une des propositions disant il faut interdire. On a fait un autre choix parce que en parallèle de ces concertations, d'autres propositions de riverains nous ont été proposées, des aménagements possibles et expérimentaux auront lieu sur la rue Alsace bientôt. On verra si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, on reviendra en arrière. On expérimente, on essaie de voir comment ça peut fonctionner parce que vous savez que la rue Alsace c'est une aire piétonne où le piéton est prioritaire et où il y a un sentiment d'appréhension de la part du piéton à l'égard des vélos et en particulier des vélos électriques ou des trottinettes électriques qui vont bien plus vite que les 6 km/h qui sont autorisés en aire piétonne. Et donc, c'est souvent une source d'appréhension, parfois de conflits, parfois d'accidents, peut-être plus rarement, mais il y a quand même un sentiment d'insécurité, donc il faut qu'on essaie d'accompagner. Donc, ce type de proposition a été faite, on ne l'a pas retenu pour autant, ça ne veut pas dire qu'on l'écarte définitivement, mais on a réfléchi à des alternatives pour essayer de résoudre le problème.
Alors, partant de toutes les contributions, les propositions que vous avez pu recueillir, sur quels axes et idées fortes ont été conçus le code de la rue et le livret pédagogique qui l'illustre, sachant que ce livret est conçu en deux parties?
Absolument. La première partie porte sur les différents modes de déplacement. On essaie de faire un focus, de porter une attention particulière sur chacun des modes de déplacement et les recommandations qu'on souhaite mettre en avant. Le code de la rue, pour nous, la philosophie qui a été la nôtre, ça n'a pas été une philosophie de rappeler toutes les interdictions. C'est pas faire une liste des interdictions exhaustives, une liste à la Prévert. Ça a plutôt été une démarche bienveillante. Pour se dire que quand on se déplace, on n'est pas seul sur l'espace public, qu'on doit faire attention aux autres. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on doit faire attention aux autres et en particulier aux plus vulnérables. Et on s'est dit qu'il fallait prioriser une chose, c'est le piéton. Le piéton, parce que tout le monde est à un moment piéton. Quand on prend les transports en commun, on est piéton. Quand on prend son vélo, à un moment, il faut bien marcher un peu pour récupérer son vélo.
Quand on descend de sa voiture, on est piéton.
Exactement. Donc, le piéton, c'est le mode de déplacement le plus inclusif. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait aussi avoir une attention particulière pour les vélos. Parce que les vélos sont les plus vulnérables par rapport à un accident avec une voiture, par exemple, mais peuvent être aussi source d'appréhension à l'égard des piétons, selon dans certains espaces. Et puis, rappeler la nécessité aux véhicules motorisés qu'ils ont une responsabilité double. Parce qu'en cas d'accident, l'impact à l'égard de la personne la plus vulnérable est en général un impact corporel et avec des accidents graves, voire mortel, ce qui n'est pas le cas en effet entre un piéton et un vélo en général. Les accidents ne sont pas mortels. Donc il y a cette responsabilité double, donc il y a cette première partie où on essaie de rappeler toutes les règles. Et puis une autre partie, où c'est la deuxième partie du code de la rue, où on prend en réalité toutes les réglementations des différents espaces publics existants.
Les différentes zones en fait.
Exactement, où on met en avant ce qu'est une aire piétonne et quelles sont les règles de l'aire piétonne, qu'est-ce qu'une zone de rencontre. C'est un peu différent de l'aire piétonne. Et quels sont les critères, les caractéristiques de la zone de rencontre? On fait de même pour les différents types de nouveaux aménagements vélos qui existent et qui se développent petit à petit à l'échelle de la métropole. Une vélorue, qu'est-ce que c'est? Un chaussée doux, autrement appelé un CVCB, en termes plutôt administratifs. Bon bref, une liste des différents aménagements existants et des réglementations afférentes à ces aménagements qui nécessitent d'être expliquées pour pouvoir être respectées.
Parmi les zones sur lesquelles il y a eu un regard bien particulier, il y a les abords d'école aussi. Et ça, il me semble important d'en parler parce que je ne suis pas certain que tout le monde se rende bien compte que lorsqu'on approche d'une zone où il y a une école, il faut être encore plus vigilant et il faut des règles spécifiques.
Absolument, parce qu'on repart de l'idée initiale dont je vous ai parlé, c'est on doit prioriser la sécurité des plus fragiles. Et parmi les plus fragiles, vous avez les piétons, les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Et donc, il faut qu'on ait une attention particulière, une attention double, et qu'on s'engage tous collectivement à être prudents à l'égard des piétons et des petits Toulousains, au final. C'est pourquoi Jean-Luc Moudenc a souhaité engager, depuis le début du mandat, et même ça a commencé à la fin du mandat précédent, une réflexion avec une mise en œuvre de ce qu'on appelle les rues-écoles. Parmi les sujets des rues-écoles, on peut imaginer la rue scolaire. La rue scolaire, c'est le principe qu'à partir du moment où vous vous approchez d'une rue scolaire, d'une école, excusez-moi, la rue est bloquée aux heures d'entrée et de sortie des écoliers. C'est une des possibilités. L'école du Nord, par exemple, a été sujet à cette rue scolaire. Il y a d'autres outils, parce que parfois on ne peut pas bloquer une rue également, même si une école donne dans cette rue, l'accès structurant, on ne peut pas mettre une rue en sens unique ou tout bloquer d'un seul coup. Et donc, on a aujourd'hui, sur à peu près un peu plus de 220 écoles communales, on a 41 écoles qui, d'ici la fin du mandat, seront rues scolaires, et puis un certain nombre d'autres rues qui seront d'autres écoles, qui seront aussi sujets à des évolutions. Pour l'année 2024, c'est l'école La Canale et l'école Jean Cas qui deviendront de manière opérationnelle les rues scolaires.
Alors, il y a des catégories un peu particulières. Bon, vous avez été obligé, par exemple, de séparer ce qui relève du vélo classique et ce qui relève du vélo à assistance électrique. On aurait pu penser que pour tous les vélos, c'était les mêmes règles. Ben non, pas forcément. Et puis, il y a une catégorie, c'est les automobilistes et assimilés. Qu'est-ce qu'on met dedans ?
Ah ben, les automobilistes et assimilés, alors il faut voir surtout les véhicules motorisés. On est sur les automobilistes, on a les motos, par exemple, véhicules motorisés, les livreurs. Ça fait partie aussi, hein. Il ne faut pas oublier que les livreurs ont une responsabilité importante. Hein, dans
tous ceux qui ont des fourgons.
Exactement. Enfin, et la logistique urbaine. Et c'est pourquoi, au dernier conseil municipal, par exemple, on a voté une nouvelle charte de livraison pour faciliter en particulier les livraisons et, par exemple, interdire sur certains créneaux la possibilité de livraison dans l'hypercentre pour pouvoir favoriser les déplacements piétons et vélos en particulier. Donc voilà, c'est en réalité les véhicules motorisés. Parce qu'on s'est dit qu'en cas d'accident, l'accident a plus de probabilité d'être corporel et mortel et gravissime. Et donc, il faut qu'on ait une attention particulière pour rappeler les règles et la responsabilité des conducteurs de ces véhicules. Mais il faut avoir une idée en tête, c'est que pour nous, le code de la rue est une démarche inclusive. Ce n'est pas les uns contre les autres. C'est tous ensemble, dans nos différents modes de mobilité, qu'on doit apprendre à vivre ensemble. Voilà. Donc, ce n'est pas les voitures contre les vélos, les piétons contre les vélos, c'est tous ensemble et l'idée du vivre ensemble.
Oui, parce qu'on pourrait imaginer que la responsabilité des automobilistes et assimilés est encore accrue dans ce code de la rue. C'est sans doute le cas, mais en fait, non, les responsabilités sont pour tout le monde.
Bien sûr.
Tout le monde a sa part de responsabilité.
Tout le monde. Après, particularité pour les automobilistes, on en avait, je crois, déjà parlé lors d'une précédente émission, on a mis la ville à 30 km/h. Et ça, c'est un impact principalement pour les automobilistes. C'est-à-dire qu'on a considéré que la ville, qui était initialement, comme dans toutes les agglomérations, la vitesse de circulation limitée à 50 km/h, avec des zones par dérogation à travers la signature d'arrêtés municipaux, on pouvait avoir des zones à 30 km/h. Là, on a changé de paradigme, on est à 30 km/h à l'échelle de la ville, et par dérogation, on a des axes à 50 km/h. On n'a pas passé toute la ville à 30 km/h, on a conservé les axes structurants, les boulevards,
50,
les avenues, les routes, à 50.
La communication maintenant, parce que ce code de la rue, il va falloir que tout le monde le connaisse, en prenne connaissance. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Campagne d'affichage et puis ce qu'on appelle du boîtage, c'est-à-dire que tout le monde, la plupart des citoyens vont le recevoir dans leur boîte aux lettres.
Oui, alors en effet, vous avez ce petit livret qu'on a essayé de faire aussi bien que possible, lisible, compréhensible, et puis que ça puisse
être
intéressant.
Lire,
exactement, oui. À lire. Ça va être distribué dans toutes les boîtes aux lettres de tous les foyers toulousains. C'est un peu plus de 300 000, 350 000 plus précisément, boîtes aux lettres. Il y a des campagnes d'affichage. On va avoir un travail à travers aussi les écoles pour apprendre à rouler à vélo, à faire de la prévention dans les différentes écoles communales. Les lycées et les collèges, des actions sont déjà entamées. On a des actions également à travers des spots d'apprentissage, messages, des petits tutos sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde n'ouvre pas sa boîte aux lettres et lit les différents documents qu'on reçoit. Il y en a beaucoup, je le sais, moi le premier. Donc,
parfois, ça passe même à la poubelle.
C'est pour ça.
Faire attention.
On essaie de démultiplier les canaux de communication, qu'ils soient adaptés à chacune et à chacun, pour faire mieux comprendre la règle.
Petite particularité en termes de médiation, vous avez désigné ce qu'on appelle des ambassadeurs du code de la rue. Qui sont-ils et où va-t-on les rencontrer? Dans les zones de rencontre, justement?
Bien sûr, alors oui, en effet, ça pourrait être un lieu en particulier propice. C'est des ambassadeurs, j'appellerais ça plutôt des médiateurs, parce qu'on s'est dit que la démarche de pédagogie, de compréhension et de communication était bienvenue à travers des éléments de communication, des outils, un livret, des spots publicitaires, des petites vidéos sur les réseaux sociaux, mais que la présence humaine était indispensable. Et c'est pourquoi on a signé une convention avec l'association nationale Unicité, qui accompagne des volontaires services civiques, des jeunes qui veulent s'engager pour des causes, et en particulier pour des causes liées à la mobilité, à l'apaisement des mobilités, et en général en faveur de la décarbonation des mobilités, en faveur des mobilités douces, piétons et cycles. Et ces jeunes médiateurs, en lien avec les services municipaux et en lien avec les services de la police municipale, feront un travail de médiation sur certains lieux qui auront été désignés à travers des concertations avec les associations, les comités de quartier et autres, pour rappeler la règle, faites attention, on essaie d'avoir de la présence humaine et du lien humain et je dirais aussi social pour faire vivre ce code de la rue et le vivre ensemble.
Et puis comme ça permettra de préciser les choses pour certaines personnes, de clarifier parfois des choses qui ont été mal comprises. La question qui fâche pour terminer, qu'est-ce qu'il est prévu en termes de verbalisation si le code de la rue n'est pas respecté et ce sera à partir de quelle date?
Alors, la verbalisation, elle va de pair avec la politique de prévention. Vous savez, sur ces sujets-là, il faut marcher de ses deux jambes. Sa jambe, on va dire, liée plutôt à la prévention, à la communication, à la pédagogie, mais aussi liée à la répression, parce qu'il faut de l'ordre, il faut de la régulation et pour avoir une meilleure cohabitation dans l'espace public. Et la police municipale est là pour ça. Elle a déjà évidemment un travail de verbalisation et je peux vous assurer que ça fonctionne puisqu'on reçoit régulièrement des plaintes de personnes qui se sont fait verbaliser parce que mal stationnées, parce que stationnées sur une piste cyclable, même pour quelques secondes, mais nous fait la remarque qu'ils sont insatisfaits de cette verbalisation injuste. Bon, la vérité c'est qu'il y a déjà des verbalisations, mais on s'est dit que la verbalisation est plus légitimement comprise et acceptée collectivement et même individuellement quand il y a une grosse campagne de communication et de compréhension. Et donc, c'est un travail de coordination et la police municipale viendra compléter le travail des médiateurs. Quand des médiateurs auront été sollicités, mobilisés sur certains lieux et où la règle n'est pas respectée, alors la police municipale pourra venir verbaliser tous les utilisateurs, les usagers des différents modes de transport.
Écoutez, j'espère que nous aurons été clairs et exhaustifs. Il est temps de conclure cette émission. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous, Maxime Boyer. Et merci de nous avoir présenté le Code de la rue à Toulouse, sa philosophie, ses objectifs et ses règles pour chacun des usagers de l'espace urbain toulousain. On rappellera tout de même que le premier principe à respecter lorsqu'il s'agit de circuler en ville comme ailleurs, c'est d'être vigilant et attentif à l'autre. Le Code de la rue et son livret pédagogique sont consultables et téléchargeables sur le site www.métropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.